Voici la balado-diffusion de l'émission du matin la plus positive à Montréal. Tous debout, en semaine dès 5h25, avec Richard Turcotte, Anne-Élisabeth Bossé, Mika Guerrier et avec la collaboration de Pierre-Yves Roy Desmarais et Christine Morancy. Disponible sur votre radio au 107.3 Rouge et en tout temps à rougefm.ca. On est tous debout!
Bonjour.
Okay. Bon, là, c'est mercredi. On est le 20 janvier 2022. Ah, petite blague, j'ai dit je le ferai hier. Hier, on était en 2020. Regarde, 2 ans se sont passés, puis le temps passe vite.
Mais quand on est incroyable. C'est fou, hein?
Incroyable. On a un nouveau président. C'est incroyable tout ce qu'il a réussi à faire depuis un an aux États-Unis.
Tout le monde est vacciné.
Voilà, tout va bien. On est de retour à la normale. Hey, hier soir, j'ai été au resto après avoir été au Centre Bell.
OK, on est de retour à 2021.
Oups, là! Tout ça n'est possible. Mais on a un nouveau président, quasiment.
Ouais, c'est à midi, hein, l'investiture. Andréane, tu étais là pour nous en parler, toi, aujourd'hui.
Oui, absolument. Ça va être le gros événement de la journée. Donc, à partir de 11h environ, les cérémonies, là, mais le serment aura lieu vers midi pour Joe Biden et Kamala Harris.
OK. Bien, regarde, continuons vers les nouvelles. On va aller faire un petit tour à Mario parce qu'il est là, qui lève la main, il dit « Hey, puis oui. la... sa route, comment ça se passe? »
Un coton, moi, ici. Tu
on dirait d'entendre ta femme qui parle de toi. Non, c'est pas vrai. Non, mais il faut se méfier, hein? Ça peut être glissant par endroits ce matin.
Oui, surtout en périphérie, là, il y a une petite neige qui recouvre la chaussée, donc soyez vigilants ce matin. Là, on a quelques incidents qui viennent de nous être signalés. D'abord, 13 Nord, on a un débris sur la chaussée à la hauteur du boulevard Saint-Martin. C'est la voie de gauche qui est obstruée, le temps de ramasser les débris. La 13 également, mais un peu plus haut à Dagenais, on a un véhicule en panne et un camion en panne au pont de l'Île-Charron, là, sur la 25 Sud.
OK, on se reparle tantôt dans les autres nouvelles, Andréane?
Bien, justement, là, tous les yeux de la Terre qui sont tournés vers les États-Unis aujourd'hui, parce que je vous le disais, Joe Biden qui va devenir officiellement le 46e président des États-Unis. Sa vice-présidente aussi, Kamala Harris, qui va prêter serment à ses côtés. Donald Trump ne sera pas présent à la cérémonie qui va se dérouler sous haute surveillance policière et militaire. Il avait quand même un dernier message pour ses supporters. On l'écoute.
Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning.
De retour chez nous,
il peut pas s'empêcher. Hein?
Non, il est pas capable. Il était quand même plus calme hier, quand même.
Il a bien fait de, il s'est assuré de pas nommer Joe Biden et ou démocrate.
Non, reconnaître sa défaite, là, c'est non. Plus de 21 000 ventilateurs commandés par le gouvernement canadien pour traiter des patients atteints de la COVID-19 dorment dans des entrepôts. Seulement 160 appareils ont été distribués aux provinces, selon Le Devoir. Une autre commande de 19 000 appareils est attendue. C'est une facture qui totalise plus $1 milliard. Et au sport, pour la première fois dans l'histoire, une femme fera partie de l'équipe d'arbitres lors du Super Bowl. L'Américaine Sarah Thomas évolue au sein de la NFL depuis 2015. Elle a déjà pris part à 4 matchs d'après-saison, mais le Super Bowl, c'est prestigieux et ça aura lieu le 7 février prochain du côté de Tampa Bay.
Merci.
Je n'aurais dû que pour elle.
Absolument.
Oui, pourquoi pas? Et hey, puis en tout cas, une belle journée. On se retrouve tantôt, Andréane. D'ailleurs, prépare ça parce que c'est la journée nationale des DJ aujourd'hui.
Ah oui? Puis là, faut que tu te fasses une toune?
Bien, pas nécessairement la faire, non, mais la trouver.
Idéalement, un remix, s'il te plaît.
Remix?
On vous demande même à toi et à nos auditeurs au 6-12-13 de nous envoyer la toune, t'sais, votre toune de party qui lève, mais qui a été peut-être remixée par un DJ. On va célébrer DJ, ils sont là pour
Remix.
Ça. Pourquoi pas?
Le moment fantastique. Voici Pierre-Yves Roy Desmarais.
Fait que tu nous ramènes dans le passé, puis ouais.
Ben oui, dans le lointain passé de l'enfance. Oh. Avez-vous déjà été des enfants, vous?
Il y a longtemps. Oui,
plus lointain que toi, moi.
Ah oui? Ben, je sais pas si tu vas voir mes références, mais en fait, parce que pour moi, ça, c'est des référents d'enfance. Mais okay. Pour toi, peut-être que c'est ta vie de jeune adulte. Okay. Je sais pas. Mais tu vas sûrement avoir des équivalents dans ton enfance à toi, parce que je me suis rendu compte récemment en écoutant Austin Powers, que j'écoutais quand j'étais jeune.
Oui.
Très inapproprié pour les jeunes, ça.
Mais c'est à double sens, c'est ça qui est le fun.
C'est brillant, c'est ça qui est brillant. C'est la petite magie, ils ont réussi à rendre un film que les jeunes veulent voir puis qu'ils se rendent pas tant compte. Encore là, je dis, on savait là, que, tu sais, quand il était en bédaine puis qu'il se cachait une nip, sinon on se doutait qu'il y avait quelque chose de vulgaire là-dedans. Mais j'ai d'autres exemples de trucs que j'aimais quand j'étais jeune puis qu'aujourd'hui, tu sais, on réalise que c'est.
Tu ne le regardes plus pareil.
Ben non, exactement. Ben les films de peur, je sais pas si vous connaissez les films de peur. Oui, ça, là, il n'y a pas plus vulgaire que ça. Mais je pense que c'était 18 ans et plus, là, si j'avais.
Ah, il y en a, mais souvent 16 ans et plus. Genre.
C'est ça. Mais moi, j'écoutais ça, j'avais bien moins que 16 ans. Puis en même temps, il y a une partie de nous autres qui le savait. Puis on était comme, il vomit.
Interdit, là.
Ah, oui, exact. Bon, là, il y a plein de chansons aussi avec des paroles qui n'ont pas de bon sens. Là, genre, bon, évidemment, la toune des Venga Boys. Boom, 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 boom. I want you in my room. Spend the night together. Together in my room. J'étais comme, waouh, party pyjama.
C'est ça. Non, taille d'oreiller.
Mais aujourd'hui,
c'est pas pour ça qu'ils vont faire boum 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 dans la chambre.
Ben non, c'est ça. Faites les mettre de la musique, tape dans le plancher, boum boum. Hein. Bon, la fameuse tune de Lady Gaga, ouais. I wanna take a ride on your disco stick.
Oui,
c'est
oui,
ça,
oui.
C'est ça, là.
Ah, une trippeuse de limbo.
Ça, c'est dur de l'interpréter autrement. Le fameux disco stick sur lequel on ride. Bon, je sais pas si vous connaissez 50 Cent.
Ben oui, 50 Cent.
T'as-tu ça référence-là, Richard?
Ben, je l'ai, là, mais je veux dire, ça dépend.
Il panique, hein, il est stressé. La toune de 50 Cent, de Candy Shop.
Ben oui.
Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. I let you lick my lollipop.
Non, non.
Ça, c'est des
sexuel.
Belles valeurs de partage pour les gens.
Oui, regarde. Les bonbons de
scène,
là.
South Park, en général, je ne sais pas si vous écoutez
ça. Ouais, je dirais même que c'était plus fait pour les adultes.
Ben oui, ça, définitivement, fait pour les adultes. Bon, puis pas juste ce qu'on écoutait, ce qu'on mangeait. Tu sais, manger des pizzas pochettes et des Joe Louis en écoutant Radio Enfer. Je ne sais pas à quel point c'était bon pour notre santé, ça. Là,
et l'environnement.
Ça. Non, exact. Puis le pire, c'est que, tu sais, j'ai pas mal. J'en ai pas. Je suis pas traumatisé. Tu sais, j'ai grandi un adulte normal, donc n'ayez pas trop peur de ce que vous faites. Écoutez à vos enfants. Ce qui aurait pu me faire virer fou, c'est la toune de Mixmania, Party de gars. Ils ont ramené du dépanneur, ben des chips et de la liqueur. J'avais beau être jeune, j'étais déjà comme « loser
». On est mercredi, le 20 janvier 2021, et si vous êtes DJ, on vous souhaite bonne fête, malgré que, bon, on a regardé à savoir, parce que c'est la journée nationale des DJ aujourd'hui, on s'est informé ce matin pour savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe comme activité. Rien, fuck out. Il n'y a rien. Ben, ils ne sont pas debout à cette heure-là.
Mais les autres, oui,
ils
sont
ils se couchent,
ouais.
Ils se couchent à cette heure-là.
Ils ramassent leur stock.
C'est ça. Donc, on vous demande quelle est la toune, vous autres, qui met le party dans la place quand vous êtes là. Puis la toune, souvent, que vous voulez vous-même mettre dans l'appareil pour que
quand
ça.
Quand vous improvisez DJ, oui. Là, qu'est-ce qui partirait votre set, mettons?
Oui, au 6-12-13, nous autres, on a les nôtres, on va faire jouer ça dans quelques secondes. Mais je vous disais que moi, j'ai été DJ, j'avais ma disco mobile à l'âge de 15 ans, moi, déjà. Puis j'ai fait ça une couple d'années. Après ça, DJ dans quelques discothèques, j'animais. Mais je me souviens avec mon frère Daniel, qui est 6 ans plus vieux que moi, c'est sa disco mobile que j'avais acheté à un moment donné. Et plus tard, on est devenu partner dans cette disco mobile-là.
Fait que... Un vrai entrepreneur à 15 ans.
15 ans. Oh, 15 ans,
c'est malade.
Oui, moi puis Big Dan. Fait que on se fait appeler pour un contrat le 31 décembre au soir. Là, je fais comme, ben voyons donc, 31 décembre, c'est sûr qu'on leur charge le double parce que c'est quand même férié.
Gros party.
Oui, fait que il dit pas de problème. Il accepte le montant qu'on leur charge. Fait que c'est dans un petit bled en Estrie, mais vraiment un village, là, tu sais. Fait que c'est un party de famille, mais grosse famille. On arrive là, 31, habillé propre, hein, on essaye. On s'installe tout ça, on commence à jouer notre musique, puis personne sur le plancher de danse. Fait que là, mon frère, étant un gars d'expérience, très bon DJ, il fait comme, OK, on va y aller dans différents styles. On n'a peut-être pas atteint leur style, mais on va y aller dans différents styles, mais on va sortir nos grosses bombes. Là,
les valeurs sûres.
Les hits, l'arsenal.
Des blue chips. Fait que on y va d'un style différent, mais nos meilleurs tunes, et ça lève pas.
Voyons donc.
Rien, personne. Après 15-20 minutes, là, nous autres, on est là qu'on sue. On fait que, voyons, on n'a pas toutes ces années d'expérience-là pour se faire, tu sais, clencher dans un village.
Ben oui,
on...
vous avez chargé cher, en plus.
Hey, nous autres, on arrivait de la grande ville, Sherbrooke.
Allô?
Oh, 15 minutes, il nous donne notre chèque. Il dit, ça va être beau, merci.
Non!
Fait
non!
On a eu deux sentiments à Maker. On a fait comme, ah ouais, on se crame, on s'en va parce qu'on va aller à notre party du temps des fêtes qu'on est en train de manquer. Mais l'autre, c'est notre orgueil qui est touché, là, notre ego.
Je comprends.
Mais c'est pas
c'est
de
votre business, là.
Pendant le temps qu'on ramasse, la gang dit « Bon, on va faire comme on faisait toutes les autres années. » Ils amènent les caisses de bière, ils s'assoient dessus, puis des bancs, puis des sièges, tout ça, en rond. Il y en a un qui sort un harmonica,
oh,
l'autre une guitare.
C'était des tapocheux.
Ou des tapocheux. Ils vont chanter des chansons à répondre.
Ben, c'est pour ça, vous étiez juste pas à bonne place.
Ben, c'est sûr que Michael Jackson, eux autres, ça ne donnait rien, là.
Non.
Bon,
mais,
OK.
Mais ça, moi, ça fesse.
Ben, je m'en remets pas.
Ben, je comprends. Moi non plus, je m'en serais pas remis.
Ouais. Fait que, donc, allons-y avec nos suggestions, justement, de tunes qui mettent le party dans la place. Annelie, on commence avec toi.
Moi, si j'étais DJ, je commencerais mon set avec Crazy in Love de Beyoncé. Ben ça, c'est un échantillon de Are You My Love des Chi Lights, c'est une tune des années 70.
Ouais,
c'est
classique.
Wow. Hey, moi, ça rentre au poste. Là, et je trouve ça malade, cette tune-là.
Ça vient de chercher.
Encore un petit bout, encore un petit bout. Mais... Wow!
Fou d'amour.
OK, Meeker, DJ Meeker.
Tu le sais que c'est un hit quand t'as le goût de chanter les paroles et que tu connais pas toutes. Oui. Moi, là-dessus, sur Crazy Love, très fort.
Mais Meeker, juste une seconde. Anneli, tu t'appellerais comment si t'étais DJ?
DJ Bobo.
DJ
Plaster Mix, DJ Bobo.
OK,
parfait. DJ Plaster Bobo.
Toi, Meeker, ça serait quoi ton nom de DJ?
Moi, je sais pas. J'en aurais pas de nom de DJ. Moi, je suis trop occupé à boire, à danser puis à faire la fête pour être DJ. Okay.
GoldenEye, non? DJ Golden... Non.
Bien joué. DJ Cyclope. en fait, moi, c'est un vieux souvenir du université. C'est une toune de Fat Man Scoop, mais c'est un remix d'une toune de Faith Evans.
Ben voyons. Ah ouais.
Écoutez ça.
Ah ben oui, je veux, là. Ça, trois gin tonic. Ciao!
Ça fait plus... C'est plus street un peu, hein?
D'après toi.
Ouais, ben ouais.
Hey, moi, au Rouge sur Saint-Laurent, ça jouait souvent.
J'aime bien quand un succès du passé est ramené aujourd'hui, mais que c'est fait avec goût puis que c'est pas trop. En tout cas, que ça te fait triper.
Par... Ouais.
Et c'est Hot Stuff de Kygo, de Donna Summer. Et pour ceux qui n'ont pas connu Donna Summer là, des années disco, c'était la reine incontestée. Elle avait des numéros un, là, ça n'arrêtait pas un en arrière de l'autre, c'était malade.
En tout cas, moi, je trouve que vous êtes vraiment du hot stuff, les gars.
Dans l'œil de Mika.
Richard Nelly, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand débat de société depuis deux jours ici à l'antenne.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu une tempête de neige ou pas en fin de semaine? Nelly et moi, on dit que c'est une tempête. Richard dit que c'est pas une tempête. La ville de Montréal considère que c'est une tempête si je me fie aux camions et aux affiches de déneigement, Richard. D'accord.
Ça te cloue-tu le bec, ça, tu
Voilà.
Et ben, ça c'est ton segment. Je peux pas t'obstiner. Je te laisse aller, là.
Tu peux m'obstiner n'importe quand parce que moi, je le ferai. ça pour dire que le déneigement, ça me fait penser. Hey, à partir de quand on a commencé à ramasser la neige à Montréal? Parce que
dans l'histoire, tu veux dire?
Dans l'histoire, oui, parce qu'on aurait pu laisser la neige puis juste faire comme ben, tout le monde se débrouille, arrangez-vous.
Ouais.
Puis c'est un peu ce qui se passait au début à Montréal. En fait, ça fait un petit peu plus que 100 ans seulement que la ville s'en occupe. Depuis 1905, la ville a décidé de prendre en charge les trottoirs dans les quartiers Est, Centre et Ouest, donc le vieux Montréal d'aujourd'hui. Ouais. Et 5 ans plus tard, donc à partir de 1920, ça s'est étendu à la grandeur de la ville. Ça fait pas si longtemps que ça, parce qu'au début, et ça, on parle des années là, 1642, là,
1600,
genre
ouais, okay.
Création de la ville de Montréal, ben ça commençait déjà à chialer parce que les jours de lendemain, et les lendemains plutôt de tempête, on repoussait la neige dans la rue, puis les rues étaient quasiment impraticables.
Okay.
C'était même plus facile de se promener en raquette dans les rues parce qu'il n'y avait juste rien à faire, il y avait trop de neige. En 1747, il y a un général, Guiton de Mon Repos, pourquoi je le dis à l'espagnol?
Mon Repos,
voilà.
Mais, c'est nos origines espagnoles au Québec.
Exactement, mais moi, j'en ai pas, vous autres. Ça pour dire que, oui, c'est ça, il se plaignait qu'on ne pouvait pas pratiquer, on ne pouvait pas se promener dans les rues, puis qu'il fallait commencer à déneiger. Et là, plus le temps avance, plus on se rend compte que c'est un problème dans la ville. Sous le régime anglais, en 1796, c'est les soldats qui déneigeaient parce que les soldats qui s'arrêtaient en ville ou qui étaient postés à Montréal, ben on les chargeait de déneiger.
Il y avait tellement de neige dans les rues, ça prenait un Sherpa pour ton cheval.
Ouais, c'est ça. Et celui qui était responsable des chemins, en fait, a demandé l'autorisation que 24 hommes soient chargés de déneiger la ville. Imaginez, 24 personnes.
Beaucoup.
C'est comme un immeuble aujourd'hui à Montréal qui était chargé de déneiger la ville. Fait que ça vous donne une idée à quel point les rues n'étaient pas super bien déneigées.
Imagine si c'est comme ça aujourd'hui. Bon, ben c'est le 68-45 aujourd'hui. Ben on compte sur vous. Hein? Bonne chance.
Mais vous savez ce qui a vraiment changé le déneigement à Montréal? C'est l'arrivée du tramway. Les compagnies de tramway avaient besoin de déneiger le rail et on était chargé de déneiger les rues où le tramway passait. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une pelle en avant du tramway pour déneiger les voies. Parce que juste avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est des chevaux qui déneigeaient avec une pelle. Ouais, ils tiraient une pelle pour pouvoir libérer la rue comme ça. Et il y a même, pendant un certain temps, tous les citoyens de la ville étaient chargés de déblayer devant leur maison. Il fallait déblayer au moins deux pieds. Puis sinon, ce qu'on faisait, c'est qu'on tapait la neige tout simplement. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de route comme aujourd'hui. Les charrues ne ramassaient pas toutes. Ouais. On tapait la neige quand il y avait juste deux pieds. Puis on se promenait sur un tapis de neige comme ça.
On peut pas prendre ça pour acquis quand même. Ça a changé la donne en maudit.
Non, mais ça coûte des millions de dollars à la ville de Montréal chaque année. Il y a un budget qui est prévu pour ça. Puis il y a des années qu'on le buste, le budget.
Mais en ville, c'est vraiment pas évident. Tous les stationnements qui sont sur le côté de la rue, tu sais, un bar puis l'autre, puis là, telle journée, tu déneiges tel côté.
C'est compliqué.
C'est de l'ouvrage.
Les ruelles ne sont pas déneigées aussi. Fait que des fois, c'est les gens du quartier qui s'arrangent. On se paye un déneigeur privé.
On a même maintenant l'application aussi de la ville. Je vous en parlais tantôt. Mais on a un appel. Il y a quelqu'un qui veut nous parler de déneigement.
Allô?
Allô?
Allô, qui parle?
C'est Jennifer.
Jennifer. Salut, Jennifer. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi?
Pour moi, c'est juste une petite bordée de neige. Moi, j'ai vraiment, vraiment peur de chauffer l'hiver.
Oui.
Dimanche matin, je m'y suivais à 5h30 pour aller travailler. Le retour de route était super bien. Donc, pour moi, c'était juste une petite bordée de neige.
Mais t'es où, Jennifer? T'es dans quel coin?
J'étais à Sainte-Martine.
Non, mais Jennifer, c'est parfait parce que Richard avait besoin d'un ami.
Oui,
là, on va régler.
Je t'aime, moi.
Merci,
je t'aime.
Jennifer. À très bientôt. On t'aime quand même.
Quel est le lien entre un restaurant de poulet et un magasin de grill au propane? Je sais pas. Je sais pas quel est le lien. Il va falloir le trouver. C'est Andréanne qui va animer. Fais le lien!
Ben oui! Alors, vous connaissez le jeu. On va vous donner deux courtes définitions. Puis évidemment, les réponses à ces deux définitions ont un mot en commun, comme la phrase qu'on t'a donnée. Un restaurant de poulet populaire et un magasin où on vend des grills au propane. Saint-Hubert Barbecue Québec.
Oh!
Je l'avais pas trouvé.
C'est tiré par les cheveux.
Je le trouvais tough, mais je comprends le jeu, par exemple.
Oui, t'es sûr?
Je suis prête.
OK, on part. Celui qui était en poste avant Obama et méthode pour réanimer quelqu'un.
Anneli, George Bush à Bush.
Oui,
bravo.
Ben, elle a vraiment compris le jeu. Là.
Oui, je suis
c'est
très,
la meilleure.
Très bonne. Je suis redoutable.
Elle avait vraiment compris. Elle aurait mis le W, mais regarde, on accepte.
Moi, j'ai accepté sans le W. Je suis comme ça, moi, je suis un grand cœur. Endroit où on peut louer des quadricycles et petit animal à aiguilles.
Hein? Ah oui, Richard. Vieux Parc Épic. J'ai fait la liaison. Parc Épic.
Bravo.
Expression qui signifie « rater un repas ». Et un meuble qui se trouve souvent de chaque côté d'un lit.
Richard, table à l'ange... Non.
Hein?
Ah, merde.
Comment?
Rater un repas.
Oui, passer sous la table à l'ange... Passer sous la table à chevet.
Non.
Non, ça pas... Mais c'est la bonne réponse, là. Passer sous la table de chevet, là, mais...
Oui, merci.
Oui. C'est la bonne réponse, mais là, je vous laisse déterminer si vous acceptez
ça. On n'a pas le droit de brainstormer live.
J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris.
La réponse était passer en dessous de la table de chevet.
Ah, passer, d'accord.
Au baseball. Bon, là, Mickey, là. Il me semble que c'est toi. Au baseball, position entre le deuxième et troisième but et une défaillance électronique.
Arrêt court-circuit.
Ben oui.
Très fort, très, très fort.
Richard vient de prendre le lead.
Expression pour dire que quelqu'un est mal vêtu et celui qui blâmait le vote ethnique.
Anneli, habillé comme la chaîne à Jacques Parizeau.
Oui!
Bravo! Mon Dieu, vous êtes vraiment bon.
Wow, pas
et
moi.
On termine avec... pas toi, Mika. Et on termine avec un type de piscine et le premier succès d'Éric Lapointe.
Anneli, hors terre promise. Oui, wow! Bravo! Oh,
là, c'est
je connais mon Éric, je connais mon petit cube, je connais l'épicerie. Je suis vraiment dans ma
table. D'accord. Annelie 3, Richard 3 et Meeker 0. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des, un défibrillateur pour Meeker?
Moi, je n'ai même pas essayé. Tu sais, dans la vie, il faut connaître ses limites. Ce jeu-là, c'est ma limite.
Pour vous dire, normalement, on met des écouteurs. Il n'a même pas mis ses écouteurs, puis il a mangé tout le long. Il n'a pas arrêté. Il lisait le Journal de Montréal en même temps.
Mickey n'est pas là, en fait.
C'est non, mais ce jeu-là, je le sais, c'est vraiment pas le mien. J'abandonne.
Je m'excuse, Richard, mais au 6-12-13, Marie-Lou vient d'écrire « Point à Annelie ». Pour passer sous la table de chevet. Donc, est-ce qu'on décide que nos auditeurs adorés tranchent ou on règle ça à l'été?
Ben,
oui!
Bravo, Annelie. C'est réglé.
Ben, ça.
Imbattu jusqu'à maintenant, elle est invaincue.
En semaine 5h25, écoutez, on est tous debout.
Avec Richard Turcotte, Anne-Élisabeth Bossé et Mickaël Guerrier.
En direct sur l'application iHeartRadio, à rougefm.ca et au 107.3.
Rouge.
Appelle Éco-Vedette, ça a privé. Éco-Vedette, parce que Annelie a eu hier un malaise sur un plateau.
J'ai dit tantôt, un peu plus tôt dans l'émission, que c'était pas de ma faute, mais c'est un peu de ma faute. Je vous explique. Non, partez pas de rumeurs. C'est parce que hier, je suis allée en tournage faire La Tour, l'émission animée par Patrick Huard.
Oui.
On rentre chez Patrick et on peut se faire servir un petit verre de vin. Et ils ont fait l'erreur de me mettre un bol de Ringolos dans mon char. Mais tu sais, je suis allée tout de suite après l'émission. Moi, je me lève tôt. Fait qu'en plus, j'ai même pas l'excuse de dire c'était le matin. C'était le matin pour les autres, mais c'est encore moins le matin pour moi, techniquement.
Oui. Pour toi, il était rendu midi et quart dans ton biorhythme.
D'abord, il est midi quelque part, là, que le diable emporte. Ça, c'est une
fait. Grande vérité.
Mais donc, j'ai mangé honnêtement à peu près 250 Ringolos. J'ai tellement.
C'est combien de sacs, ça, 250 à peu près?
Je sais pas, mais ils remplissaient mon bol pour le raccord. Fait que j'arrivais même pas à voir la vraie quantité que je mangeais. Il était toujours plein. Fait que,
t'as peut-être mangé genre 8 bols, tu le sais pas.
Je pourrais pas savoir, mais je sais qu'après ça, ça ne fallait pas pantoute. Puis j'avais des petites rotures de trop. Junk,
non!
Dégueulasse. Je m'excuse pour les détails.
Oui, mais tu sais que tout ce qui est raccord comme ça en rapport bouffe, et liquide, c'est comme le rêve de Meeker. Je pense pour ça que tu as commencé à faire de la TV.
Non, mais je me sentais mal. Moi, j'étais à la semaine des 4 juillet cette semaine. Puis, tu sais, ils mettent tout le temps un petit peu de nourriture dans les loges. D'ailleurs, Marilyn Jonca m'a pogné la main dans le sac. J'ai pogné un sac de chips. Là, je le mange. Et c'était bon, là. J'avais tellement faim. Et là, je vois, hey, on est 4 dans la loge. Il reste 4 sacs de chips. Ça veut dire qu'il y en avait un de trop. Fait que j'ai été m'en chercher un autre. Marilyn a fait comme, ben là, toi, tu fais quoi? J'ai dit, ben quoi, il y en avait 4. Et mon collègue Olivier, il me dit, OK, fait que toi, t'as décidé que l'extra est à toi. J'ai dit, ben clairement. Fait
mais
que
bon,
je me suis
connaissent
bourré
pas bien
la...
pour poser la question. Non, mais, on aurait pris pour acquis.
Mais on mange pas à la télé. On n'est jamais en train de manger ensemble. Vous autres, le matin, vous connaissez tous mes secrets. Eux autres l'ont appris à leur départ.
Je veux savoir la sorte de chips.
Et écoute, j'ai commencé par des Doritos.
Après ça.
Et ensuite, des Lay's au ketchup.
Ah, mon Dieu, quel drôle de mix.
Bon.
Mais
c'est pas grave, c'est bon. Tout est bon. Moi, quand c'est bon, je peux tout manger.
Donc, tu étais là hier pour parler de ton émission que vous faites en trio, les trois étoiles.
Exactement,
à RDS.
Les trois étoiles à RDS tous les lundis, 19h.
Et d'ailleurs, ta collègue a dit quelque chose sur toi, sur le plateau. On écoute l'extrait.
La coquette, c'est Meeker.
La coquette, c'est Meeker.
J'assume très bien. Vous connaissez mon amour des chaussures et vous ne connaissez peut-être pas mon amour des vestons aussi. Okay. Fait que j'essaie d'avoir un veston et des chaussures différentes à chaque émission.
Et des petits chapeaux à large rebord avec des fleurs.
Oui,
j'en savais. Toujours un petit chapeau à large rebord.
J'ai aussi des chaussures qui retroussent par en avant.
Comme les lutins.
Non, ça va bien.
Je vous parle de la fatigue. On est fatigué. C'est le mot qui revient souvent. Moi, on me dit que je suis fatiguée. C'est quoi votre rapport avec la fatigue en général? La ressentez-vous? Êtes-vous quelqu'un qui est comme « Non, moi, je suis très souvent en forme » ou vous êtes au contraire toujours fatigué?
Bien, je pense qu'il y a une portion qui est psychologique.
Absolument.
Tu peux travailler ton cerveau pour l'être moins.
Toi, Meeker?
Moi, je suis très souvent fatigué. J'en parle juste pas parce que je pense à mes parents qui ont eu longtemps deux jobs, qui ont travaillé comme des débiles. Fait que je suis comme, hey, je travaille, c'est le fun.
Oh, ouais, t'essaies de rester positif.
Mais ouais, puis je dors pas beaucoup.
J'ai lu une entrevue fascinante avec l'historien Georges Vigarello. Il a sorti un livre cet automne qui s'appelle Histoire de la fatigue. Puis il essaie d'expliquer justement pourquoi aujourd'hui on se sent plus fatigué alors qu'on travaille vraiment moins physiquement qu'au Moyen-Âge, par exemple. Mais d'abord, la notion de fatigue a tellement évolué. Justement, au Moyen-Âge, c'était la seule fatigue qu'on connaissait, la fatigue physique.
Ah oui.
Bon, tout était centré autour de l'activité militaire. Fait que c'était juste la fatigue du combattant. Puis elle était normale, puis c'était la seule qu'on connaissait. plus tard, disons au 17e siècle, là, il y a eu comme plein d'affaires qui ont changé dans la société, comme l'implantation de plus d'éducation, l'administration, les lettres. Et là, c'était la première fois qu'on a parlé de fatigue de l'esprit, parce que c'est comme différent quand même, travailler, oui, tu sais, jouer dehors versus rester devant son laptop, mais être quand même, tu sais, drainé, là. Et c'est le philosophe René Descartes, qui est un des premiers qui a parlé de fatigue, fatigue dans la tête. Et dans l'entrevue, on y parle de l'aspect positif de la fatigue. Tu sais, des fois, justement, une bonne fatigue. Oui. Tu as fait un fort avec tes enfants dehors, tu rentres, tes joues rouges. Je te dis, est-ce que ça a toujours existé, cette notion-là de bonne fatigue? Puis il fait, bien, au Moyen Âge, la fatigue des chevaliers et des religieux, ils l'appelaient comme la fatigue grandissante. C'était la fatigue qui élevait l'esprit parce que tu grandissais moralement, parce que tu faisais, tu étais bon pour le bien commun, finalement. Okay. C'est plus comme fin 18e siècle, quand les bourgeois ont commencé à faire des activités sportives par choix. Là, ils disaient, « Ah, cette fatigue m'a été utile. J'aime la fatigue. J'aime jouer aux paysans. Bon, j'aime faire des choses par choix. » Et c'est là que je ressens ce qu'on appelle la bonne fatigue.
La faute des bourgeois du plateau.
C'est toujours la faute des bourgeois. Et là, au 19e siècle, on pense plus de la société change. On est plus comme démocratique. On dit, tout le monde a un rôle dans la société. Le médecin, le gendarme, l'horticulteur. Et là, c'est devenu une fatigue de solidarité. Tu dis, je suis fatiguée, mais je suis fatiguée pour le bien, ma société. Je suis fatiguée un petit peu pour tout le monde.
Okay.
Fait que ça, c'est comme là que c'est comme ça que ça se déploie, l'idée de fatigue. Et là, on lui a demandé, OK, mais là, on comprend que la fatigue, aujourd'hui, elle existe, elle a une valeur, mais on s'entend-tu que ça n'a rien à voir avec la fatigue de l'époque?
Oh, mais c'est différent.
Bien, il dit non. Il dit quand même, soyons honnêtes, le travail sans machine était infiniment plus épuisant. C'est indiscutable. Ben oui. Hey, là, on a les transports qui facilitent les trajets, les appareils domestiques, tout ce qu'on fait dans la maison, les micro-ordinateurs, n'importe quoi. Mais comment ça se fait qu'on se sent encore fatigué, même de plus en plus fatigué? Bien, il dit que le fait d'être assis, quelque part, l'engourdissement du corps, puis les tâches finissent par embrouiller l'esprit au point qu'on a l'impression, au bout d'un certain temps, d'avoir atteint nos limites. Il dit, et la grande, grande différence, c'est qu'il est arrivé à la fin du 19e siècle, la merveilleuse chose qu'on appelle la psychologie, ça consiste à être à l'écoute de ce qu'on ressent. C'est une chose qu'on ne faisait pas avant. On n'avait pas de sensation de notre rejet. On ne se disait pas comment je vais aujourd'hui. On avait un devoir à faire. Notre survie en dépendait. Donc, on n'avait pas de langage même pour parler de la fatigue. Là, aujourd'hui, on est un petit peu plus centré sur notre nombril.
On a le jeu facile.
C'est pour ça qu'on ressent plus la fatigue.
Fait que finalement, si je comprends bien, c'est un peu comme les tempêtes de Richard. C'était mieux avant.
Mais c'est différent.
La fatigue était plus grosse avant. Oui, c'est vrai, les tempêtes étaient plus grosses.
Restez là parce que j'ai des trucs pour gérer votre fatigue et j'ai encore des choses à dire là-dessus. Parce que c'est bien beau d'en parler, mais comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir?
Donc ça, t'as un beau réveil. Dans une dizaine, on vous fait gagner 100$ de jeu Gladius. Restez là, on va faire appel à vous autres pour jouer. Mais avant ça, à 7h39, si vous avez de la misère à vous réveiller un matin, le snooze agréable et tout ça, vous êtes encore, ressentez la fatigue encore. Anélie, y a des bons trucs pour vous autres?
Ben oui, je parle de fatigue ce matin parce que c'est don universel et on s'en sort donc pas. Ben d'abord, une super grosse tasse de café. Je pense que ça, c'est universel aussi. 107 trois rouges dans le tapis. Là, à partir de là, déjà, on a une bonne base. Ensuite, première affaire, c'est niaiseux, mais arrêtez de vous dire « Comment ça se fait donc? Pourtant, j'ai fait telle affaire. » Ça fait partie de notre époque. On est tous fatigués. Arrêtez de lutter contre le fait que vous vous sentez fatigué. C'est normal. Il appelle ça l'historien dont je parlais plus tôt, Georges Vigarello, la fatigue de frustration. Parce que comme on est centré sur soi, sur notre autonomie, c'est comme ça, on le sait, les années 2000 et bien avant ça.
Ben oui.
Tout ce qui brime notre autonomie, ça nous dérange et ça crée une lassitude psychologique qui nous brise même physiquement. Le marché de l'emploi, par exemple, pour ne parler que de celui-là, il y a son lot d'obstacles à l'affranchissement par l'autonomie. De plus en plus d'emplois sont précaires. Des fois, tu es délocalisé. Des fois, il y a une cybersurveillance des employés. On n'a pas le mode de vie pour se sentir comme ça. C'est comme contradictoire d'avoir un milieu qui brime ton autonomie puis une société qui te dit « pense à toi » tout le temps.
Ça me fait penser à Big Brother. T'es pogné, t'as pas d'autonomie, tu peux pas sortir de là. Mais
tu couches en même temps que tout le monde.
C'est ça, mais aide du plaisir.
Oui. Tu te demandes pourquoi t'es fatigué après ça, parce que t'es toujours en dualité, bref. Et même relationnellement parlant, tous les mouvements actuels de dénonciation contre l'assermentation, contre la domination, c'est lié au domaine relationnel et à la pression liée au genre qu'on ne supporte plus. On ne veut plus se sentir brimé dans notre, okay. dans notre jeu, comme on dit. Puis aussi, on est dans une société où l'épuisement n'est pas pantoute valorisé. On est dans une positivité toxique. Ça va bien. On performe. On lâche pas. Mais non, pourquoi t'es fatigué? Moi, je fais du spinning le matin avant de me lever. Moi, tu sais, tout ça nous draine. Se faire dire de ne pas être fatigué. Fait que d'abord,
c'est juste pire.
C'est ça. Ouais. Accepter. On est toute fatiguée, c'est normal. Ensuite, petit truc, ça me fait rire, au Moyen Âge, on disait, on considérait que la fatigue, c'était juste un assèchement par la transpiration. Le seul remède, il disait,
bois de l'eau.
Buvez de l'eau.
Ben oui, ça
fatigue
marche.
Fatigue égale boire de l'eau.
Mon nutritionniste me dit la même affaire. Bois pas de Red Bull, bois de l'eau.
Oui, prends pas de Tylenol, prends pas d'Advil, prends de l'eau, ça guérit tous les maux. 18e siècle, on disait, ben non, c'est l'oxygène, c'est pas exactement l'eau. Souffle et mange. Respire et mange.
Okay.
Et maintenant, comme notre fatigue et c'est notre sentiment d'être submergé par les informations, d'avoir trop de choix, on nous dit technique d'apaisement intérieur, rien de mieux que la méditation et le yoga. Ce qu'on ne suggérait pas pantoute aux paysans.
Non,
là,
ça n'existait pas.
Au 13e siècle, méditation, yoga, c'est tout nouveau.
Je ne savais pas c'était quoi, ça vient d'Inde.
Fait que grosso modo, wow. J'invente rien, mais quand même, acceptez votre fatigue. Dites-vous qu'elle est généralisée, qu'on ne peut pas la combattre, puis un petit peu de yoga de temps en temps.
Bon, des bons conseils. Ça. Tu sais que j'avais lu un livre qui s'appelle « Tout se joue avant 8 heures », et où c'est un best-seller, là, et ça donne bien, nous autres, ça finit à 8h20, notre show. Mais il disait, entre autres, que la façon mentale que tu te positionnes pour quand tu te couches, ça fait une grosse différence sur comment tu vas te réveiller.
Ah bon?
Remarque que si tu te couches...
Tu continues à travailler dans ta tête.
Oui, mais si tu te couches, tu es en tas. Tu sais, t'es fâché. Le lendemain, tu te réveilles, t'es pas... C'est rare que tu te réveilles avec le sourire aux lèvres.
C'est quoi le titre? Notre neutre avant de...
Bien, il donnait l'exemple. Non, il donnait l'exemple. Si tu te mets dans une position comme si, mettons, rappelle-toi que tu t'es levé vraiment, mais vraiment tôt, presque dans la nuit, pour partir en voyage, mettons, en Italie.
Ouais.
Cette fois-là, t'étais pas fatigué quand tu t'es levé. Tu pétais le feu, tu ressentais... Fait que si tu te mets dans cet état-là en te couchant, en te disant, OK, demain, genre, ouais, cette espèce de... Mieux que correct. Tu te mets dans l'état que tu étais quand tu es parti, mettons, en Italie le matin. Le lendemain, tu te lèves, tu ressens zéro fatigue. Tu as comme une excitation de te lever puis tu es en pleine forme.
La différence, c'est que tu peux dormir dans l'avion. Ceci étant dit, c'était quoi le titre?
Je vais le dire à l'auteur du best-seller.
C'était quoi le titre du livre encore?
Tout se joue avant 8 heures.
Ouais, moi, je suis plus dans Tout se joue avant 6 ans ces temps-ci.
Non, 8 heures. Toi, c'est 6 ans?
6 ans pour les enfants, Richard.
OK, excuse-moi. Christelle de Terrebonne nous écrit au 6-12-13. Elle dit « Présentement, je vis la fatigue de la femme enceinte. Oh oui, que je la ressens. »
Ça doit être quelque chose.
Il n'y a pas grand-chose à faire.
Bien, c'est à midi que ça se passe, hein, la cérémonie d'investiture de Joe Biden, alors que Donald Trump ne sera pas là. Il va avoir sa propre célébration avant militaire et il va s'ancrer son camp.
Il part un matin, je pense. Il s'en va en Floride, direct.
Oui, puis lui qui n'a pas vraiment félicité le nouveau président en devenir.
Pas vraiment comme dans Papantoute.
Oui, c'est ça.
Il va croiser puis il retient son souffle comme un bébé. Là.
Oui, exact.
Il ne respire pas tant qu'on ne m'ordonne pas mon poste.
Et il s'est assuré de jamais dire le nom de Joe Biden aussi. Puis,
l'administration en place. Ouais,
voilà, même pas le mot démocrate non plus. Bref, tout ça pour dire qu'on sent que, plus que sentir, il faudrait vraiment être inhumain pour ne pas sentir ça, que Trump a de la misère à laisser sa place.
T'sais, un petit peu, oui.
Votant, bye-bye, c'est terminé. Puis il dit qu'il y a eu de la triche, on le sait, là, c'est très polarisant, tout ça. Alors, on s'est dit, oui, des fois, c'est pas évident de laisser sa place, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté même amoureux, amical. T'sais, des fois, quand on était jeune, on se disait, tu sais, c'est mon BFF. Puis, on dirait que de ce temps-là, il est plus avec quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai comme perdu ma place de premier meilleur ami.
Oui, ça fait réveiller de la petite jalousie des fois. Puis c'est pas toujours facile de vivre ça dans l'humilité. Mais toi, Richard, tu l'as vécu au travail souvent.
Ben oui, tu sais, moi, j'ai commencé à 18 ans dans le domaine des communications. Donc, en radio et en télé, j'ai changé d'équipe radio assez régulièrement. Puis des fois aussi, il y a eu comme des places où c'est moi qui est parti. Hop là, il est plus là. Mais entre autres, je me souviens de Salut, bonjour, week-end, alors que Penelope McQuaid animait et elle avait eu un accident d'auto. Puis, écoute, c'était tough comme accident. On ne savait pas en tout de quel bord ça allait virer, tout ça. Et ils ont dû survirer de bord assez rapidement pour trouver un remplaçant ou une remplaçante. Puis c'est moi qui ont choisi. Donc, je suis allé remplacer en sachant pas trop combien de temps j'allais faire ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est, regardez, je vais le faire aussi longtemps que vous voulez parce que j'aimais beaucoup ça. Mais six mois plus tard, finalement, Pénélope est revenue. Et puis, ben moi, j'ai déroulé le tapis rouge parce que, tu sais, j'étais content. Ouais. D'un côté, j'étais triste de perdre la gig, si on veut, mais de l'autre côté, tu dis crime, la fille est en santé. Je suis content pour ça, là, c'est quand même beau. Ce qui est drôle, par contre, c'est que je suis parti de Salut, bonjour, week-end. Pas longtemps après, j'ai signé un contrat de 5 ans et demi avec les Grandes Gueules, retour à la radio. Et quelques semaines plus tard, Pénélope disait « Je suis plus capable de me lever à cette heure-là.
Ben non.
Je suis pas une fille de matin. Je lâche. » Et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ils ont dit « Hey, tentes-tu de revenir? » Je dis « Ben, je peux pas. Je vais faire du 7 jours sur 7. Ouais. Et j'aurai un divorce et deux enfants que je verrai pas jamais de ma vie. »
Mais
là,
c'est
t'sais.
Ça. Là, ça se peut plus à un moment donné.
Fait que, j'étais triste de laisser ma place d'un côté. Mais la vie a bien fait des choses. Vous autres, de votre côté?
Ben moi, j'ai un ami, en fait, que ses parents avaient parti d'une entreprise, puis ils ont investi beaucoup de... Ils ont sacrifié beaucoup de temps et de leur vie pour ça. Puis à un moment donné, ils ont décidé de tout vendre. Et à des gens vraiment plus jeunes, qui avaient un petit peu une autre vision. Puis un des deux parents a décidé de rester dans l'entreprise et de garder son poste. Mais là, il n'est plus boss, tu sais. Il est comme soumis à la vision de quelqu'un d'autre. Puis je me dis, ça doit prendre énormément d'humilité quand c'est ton bébé, là, que tu sais, t'as fabriqué de toutes pièces. Puis... En tout cas, dans leur cas, je pense que ça se passe super bien, mais c'est un bon exemple de « céder sa place
». Oui, c'est ça. Ou de, c'est comme quand tu retournes dans une maison que tu as déjà vendue, là, que tu as aimée.
Oui, puis là, ils ont comme
oui, ils ont tout changé.
Non, c'est ça.
Ils ont tout changé ta vision, là, tu sais.
Moi, dans une équipe de deck hockey, j'ai joué 5 ans avec la même équipe. Ça fait très longtemps que je joue. Et à un moment donné, ça fitait juste plus. Il y avait plus de la chimie n'était pas là, puis j'étais plus aussi bon que je l'étais. Fait que ça s'est terminé comme assez abruptement, genre « Hey, la saison prochaine, finalement, reviens-tu? Pas? Non? Ouais, finalement, les gars, on s'est parlé, puis ouais, non, on veut pas que tu reviennes.
Oh.
Ça a fait mal.
Ben
je l'ai encore un peu sur le cœur, mais la bonne nouvelle, c'est que ça m'a donné beaucoup de temps pour travailler, et voilà.
Okay.
Et me voici.
Un joueur de hockey professionnel disait, là, il y a eu un échange un pour un, il dit, vous avez pas idée combien l'un regardait les statistiques de l'autre à tous les jours.
Comme stalker l'ex de la nouvelle blonde de ton chum. Dans
ouais, c'est ça. C'est dangereux, ça?
Hey, c'est un jeu dangereux.
Ouais. Ce n'est pas recommandé.
Vous aimez le balado de On est tous debout? Écoutez aussi celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez tous nos balados sur l'application iHeartRadio.
107.3 Rouge.